Bon, bonjour à tous, merci d'être là encore aujourd'hui pour la fin de nos journées d'études sur les OGM. Donc hier, vous avez vu que le programme est très dense parce qu'en en fait, on est assez boulimique à l'espace Mendès France, on veut tout dire. Donc comme on avait organisé les journées d'études sur le développement durable, donc qui a fait l'objet de 3 tomes d'actes, c'est vrai que c'est important pour nous de traiter ce sujet des OGM. Lors de 2 journées et puis aussi en partenariat avec l'école d'ADN. Donc c'est la première fois qu'il y a cette articulation entre le pôle d'histoire des sciences dont je suis responsable et puis l'école de l'ADN afin d'avoir des informations diverses avec des conférenciers très interdisciplinaires comme vous l'avez vu hier et puis aussi des applications. Donc je remercie nos collègues, profite de cette prise de parole pour remercier Laurent avec lequel j'ai travaillé et puis Laurence et Laurent. Et puis aussi, je voulais remercier nos amis d'Espace Mendès France, l'ADJA ici présente, qui a fait un gros travail de documentation. Donc, vous êtes invités à prendre les papiers pour en savoir plus, les bibliographies. Ensuite, vous pouvez aussi consulter les revues La Recherche grâce à Cécile Klinger, qui nous a parlé, on les a commandés. Et quelques revues d'actualité que vous pouvez prendre. Hein, ils sont pour vous. Les ouvrages sur le développement durable, vous pouvez les consulter. La vie est compliquée. Et il y a un lutrin aussi, une bibliographie, une revue de presse faite par l'ADJA. Donc c'est beaucoup de boulot et c'est beaucoup de travail en amont. Et on est très content qu'en fait on a du public. En plus, on remercie le lycée des Feuillants d'être là. Tous nos jeunes qui étaient là hier, quand ils sont partis hier après-midi, ça a fait un trou. Vous avez manqué. Mais bon, on remercie aussi le public de ces questions. Enfin, tous les intervenants ont dit que vraiment, ils étaient ravis d'être venus chez nous, non seulement de l'accueil, mais ça c'est normal, mais aussi de la capacité, enfin, des questions posées par le public. Ils sont partis très contents. Donc, bonne matinée à tous. Donc, on a une conférence tout à l'heure par M. Bernier. Merci d'être là, qui va être présenté par Laurent Fillon. Et tout à l'heure, je vous remercie de rester aussi pour écouter Raphaël Larère, qui travaille sur le principe de précaution et qui sera là en fin de matinée. Entre-temps, vous aurez des ateliers et vous manipulerez. Vous verrez bien ce que vous manipulerez. C'est Laurent qui vous le dira. Donc, je passe le micro à Laurent. Merci à tous.
Bonjour. Je vais vous présenter rapidement un peu comment va s'articuler la matinée. Donc, on va commencer avec Aurélien, que je présenterai. Et puis ensuite, sur les 3 ateliers pratiques, pour ceux qui vont participer à l'atelier lecture d'étiquettes, ça se passera juste derrière, ici. Les personnes qui iront sur l'atelier fabriquer un OGM, ce sera avec Laurence, et ça se passera tout au fond du couloir, là-bas, on va vous isoler au fond. Et puis l'aspect traçabilité, ce sera là-haut, donc dans ce qu'on appelle le théâtre de la science, vous verrez, c'est installé, vous y verrez du maïs. Et puis on terminera avec Raphaël Larère. Alors on a déjà pris un petit quart d'heure de retard, mais bon, on va essayer de... Donc on va laisser la parole à Aurélien Bernier. Alors en 2 mots, Aurélien est secrétaire de l'association InfoGM, donc une association nationale d'information sur les OGM. Il vous donnera éventuellement le site tout à l'heure. C'est aussi l'auteur d'une petite nouvelle futuriste, on va dire, sur qui s'appelle Transgénial, que vous pourrez retrouver donc, dans les ouvrages qui sont à l'extérieur. Et il va finalement essayer de revenir sur un point qui a été évoqué à plusieurs reprises hier dans la journée, qui est la mise en marché des plantes génétiquement modifiées. Voilà, je laisse la parole à Aurélien donc pour une 30aine de minutes.
Bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bon, je fais effectivement partie de l'association InfoGM, qui est ce qu'on appelle une veille d'information citoyenne sur les OGM. C'est une association qui a été créée il y a quelques années pour pallier un certain déficit d'information et surtout d'information fiable, c'est-à-dire recoupée, vérifiée objectifs sur la question des OGM, objectifs voulant pas forcément dire totalement neutre, puisqu'il y a des informations objectives qui peuvent nous amener à avoir des avis sur la question, et notamment des avis sur le processus d'évaluation et d'autorisation des OGM dont je vais vous parler ce matin. Donc je vais vraiment essayer de tenir dans les 30 minutes, ce qui n'est pas forcément évident parce que c'est un dossier qui demande un minimum d'explications. Bon, Hier, vous avez très certainement abordé les OGM sous certains angles théoriques. Vous avez très certainement parlé de recherche, et sans doute de recherche fondamentale. Là, quand on parle d'évaluation et d'autorisation, enfin, quand je vais vous parler d'autorisation et d'évaluation, je vais vous parler d'une catégorie d'OGM en particulier, qui est celle qui pose le plus de débats, qui est évidemment les OGM commerciaux. Les OGM qui vont être vendus principalement pour l'alimentation. Et quand on parle d'autorisation et d'évaluation, il faut bien voir qu'on parle effectivement un peu des aspects scientifiques, mais on rentre aussi dans le domaine du commerce et dans les questions politiques. Donc on va faire ce matin beaucoup de commerce et de politique en parlant d'évaluation, et il faut bien garder cette distinction à l'esprit. Vous avez d'un côté les OGM dans les laboratoires, les OGM de la recherche fondamentale en milieu confiné, dont vous avez certainement déjà discuté. Là, on parle d'applications commerciales, ce qui change quand même du tout au tout. Alors, je vais revenir sur quelques éléments d'histoire relativement rapidement, mais qui sont quand même importants pour parler de ces questions d'autorisation. Bon, les OGM, je pense que ça fait quand même relativement consensus, sont des objets nouveaux, des objets innovants et qui n'existaient pas avant que les hommes sachent faire de la transgénèse, et donc qui pose un certain nombre de problèmes particuliers liés à cette technique. Et vous en avez déjà certainement parlé, quel est l'impact sur le génome d'une modification génétique, donc quel est l'impact sur l'environnement de la dissémination de plantes génétiquement modifiées, quel est l'impact sur la santé quand on consomme des OGM, etc. Donc ces questions particulières, à partir du moment où on introduit les OGM et où on veut les commercialiser, forcément pose un problème au législateur. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va considérer ces OGM, quelle réglementation va les encadrer du fait de leurs particularités, quel va être le cadre qui va permettre à la fois de les évaluer, de les autoriser et de les suivre. Donc le problème se pose en premier aux États-Unis. Et dans le milieu des années 80, le gouvernement américain, qui était celui de M. Ronald Reagan à l'époque, est confronté à cette question de la législation sur les OGM. Et donc, bon, on a une succession de rapports qui arrivent sur le bureau du président des États-Unis. Et le gouvernement prend une décision à cette époque-là qui est extrêmement lourde de sens, qui est de consacrer un principe qu'on appelle l'équivalence en substance, qui, en gros, consiste à dire, voilà, un OGM, un maïs OGM, une tomate OGM, c'est avant tout un maïs, c'est avant tout une tomate. La façon dont a été produit cet OGM n'a pas à rentrer en compte dans le processus d'évaluation. Et donc, on va appliquer à ces aliments, à ces plantes issues de transgénèse, exactement la même évaluation que pour un aliment, que pour une plante conventionnelle. Donc le gouvernement américain, cette évaluation, après, sans rentrer dans le détail, c'est des critères d'allergicité, de toxicité aiguë. En clair, à partir du moment où la plante ne fait pas mourir les petits-enfants au bout de quelques jours de consommation, à partir du moment où ça ne déclenche pas d'allergie foudroyante, c'est autorisé au même titre qu'un aliment conventionnel. Et c'est extrêmement important parce qu'il faut bien voir l'impact de cette mesure. Non seulement les OGM n'auront pas d'évaluation spécifique, mais en plus, et c'est relativement logique par rapport à ce raisonnement-là, ils ne seront pas tracés. Puisqu'ils sont équivalents en substance, il n'y a pas de raison de tracer les OGM, et donc il n'y a aucune raison de les étiqueter dans les supermarchés, de signaler les OGM et de permettre aux consommateurs de choisir ou pas. Donc les Américains partent sur un système où on dissémine des OGM dans l'agriculture, dans l'alimentation, comme on dissémine n'importe quelle plante, n'importe quel aliment. Voilà. conclusion, et c'est la première conclusion extrêmement importante, les gens qui aujourd'hui vous disent les Américains consomment des OGM depuis 10 ans, il n'y a eu aucun problème sanitaire, donc les OGM sont sûrs, ne sont pas des scientifiques, ou alors sont des gens qui méconnaissent complètement la réglementation en Amérique du Nord. Parce que dire on n'a pas d'évaluation spécifique, on n'a pas de traçabilité, on dissémine des produits, et si on constate pas d'impact sur la santé, c'est qu'il n'y a aucun problème, c'est pas un raisonnement scientifique. Parce que pour avoir un raisonnement scientifique, il faut pouvoir tracer les produits, il faut pouvoir avoir des populations qui consomment des OGM comparées à des populations qui n'en consomment pas, et pouvoir en tirer des conclusions. Donc cet argument est un argument qui, à mon sens, n'est pas utilisable. Maintenant, en Europe, les choses vont se passer d'une façon un peu différente. En 1986, la même année, pour répondre aux mêmes interrogations, le ministère français de l'Agriculture crée ce qu'on appelle la commission du génie biomoléculaire, qui est composée d'experts scientifiques, de représentants de la fameuse société civile, bon, qui est un peu une expression fourre-tout, mais des gens qui ne sont pas des experts scientifiques forcément. Et la mission est d'évaluer au cas par cas, et avant toute autorisation, les risques pour la santé et pour l'environnement de ces fameux OGM. Et la CGB est une instance consultative qui donc va être consultée systématiquement avant chaque autorisation. Donc on se dit, bon, c'est formidable, on n'est plus dans le système américain, on va avoir vraiment une évaluation au cas par cas. Bon, vous allez voir que sur le papier, oui, et dans la pratique, ça pose d'autres problèmes. En 1990, donc 4 ans après, la communauté européenne adopte deux directives, bon, dont les numéros ne sont pas très importants, mais qui encadrent l'utilisation en milieu confiné pour l'une et en dissémination volontaire pour l'autre des OGM, que ce soit pour de la recherche ou pour de la mise sur le marché. Donc c'est les premières directives européennes sur le sujet. Et un peu plus tard, à partir du milieu des années 90, les choses s'accélèrent puisqu'on a les premières cultures commerciales aux États-Unis en 95, que les demandes d'autorisation arrivent à l'Union européenne et qu'en décembre 96, l'Europe donne la première autorisation pour une variété OGM, qui est un maïs BT résistant à la pyrale, sous réserve que ce maïs, cette variété, soit inscrite dans les États membres. Ce qui est fait pas très longtemps après, puisque en 98, c'est la France qui a le privilège, entre guillemets, d'être le premier pays à réellement autoriser un OGM en Europe. C'est le maïs Monsanto 810 dont on parle encore aujourd'hui, puisque quand on parle de maïs en France, c'est cette variété-là qui a été autorisée en 98. Donc, avec autorisation de vente de semences en février. Et en 1998, en même temps, on valide les autorisations pour ce maïs. Et, chose très importante, on met en place un moratoire sur la mise sur le marché de colza et de betteraves transgéniques. Pour une raison particulière liée à ces deux variétés, qui est la maîtrise des contaminations. C'est-à-dire que la contamination est beaucoup plus difficile à maîtriser sur la betterave et sur le colza, voire impossible à maîtriser, que sur le maïs. Alors, je ne dis pas que c'est possible à maîtriser sur le maïs. Je dis que sur le colza et sur la betterave, ça va à une vitesse grand V qui pose des problèmes vraiment importants. Et puis en 1998, le gouvernement français met en place le comité de biovigilance, donc un autre organisme, qui est aussi composé de scientifiques et de représentants de la société civile, et par contre dont les objectifs sont de mettre en place et de vérifier un protocole de contrôle des disséminations volontaires. C'est-à-dire qu'on a l'autorisation amont, et puis après on a le contrôle, le suivi, une fois que la variété est utilisée.
Et donc, on parle de surveillance renforcée des OGM pour identifier et suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles. Donc, on prévoit cette surveillance et c'est confié, la réalisation du suivi, concrètement, est confiée au service de protection des végétaux, dont on reparlera un peu plus tard. Et puis, un autre moment important dans l'histoire, c'est en 1999, où l'Union européenne décide de la mise en place du fameux moratoire sur les OGM, qui repose sur trois arguments principaux. Donc, après avoir commencé à autoriser des variétés OGM, l'Union européenne dit stop, on met en place un moratoire. Et les trois arguments, et retenez-les bien parce que c'est extrêmement important, sont premièrement l'absence de mesures de traçabilité, ce qui veut quand même dire qu'on a autorisé des OGM en 98 alors qu'on n'avait pas les moyens d'appliquer la traçabilité, et l'Union européenne le reconnaît en 1999, qu'on n'a pas non plus de mesures de coexistence suffisantes, la coexistence étant l'idée on pourra débattre aussi, parce que ce n'est pas simple du tout, de faire éventuellement cohabiter des OGM avec des cultures non OGM, de faire aussi cohabiter une filière agroalimentaire OGM avec une filière non OGM, ce qui pose aussi de sérieux problèmes. Et dernier élément qui justifie ce moratoire, c'est l'absence de régime de responsabilité. Alors je sais qu'on en reparlera tout à l'heure, mais en clair, c'est il faut définir un régime en cas de contamination, pour déterminer qui est juridiquement responsable, voire pénalement responsable, d'un dommage lié à une contamination par les OGM. Donc ces trois éléments sont manquants dans la législation européenne, et donc l'Union dit on met en place un moratoire en attendant de lever, d'apporter une solution à ces problèmes-là. Et la France, bon, de façon un peu symbolique, mais quand même, met en place un moratoire de 3 ans sur toute nouvelle autorisation d'OGM le lendemain, donc dans la foulée de la décision de l'Union. Hein. Bon, le protocole de Carthagène, en janvier 2000, je passe très vite dessus, c'est un traité international qui permet de, à partir du moment où un doute scientifique existe sur l'innocuité des OGM, de mettre en place un moratoire au niveau d'un État signataire du protocole de Carthagène. Mais je ne m'attarde pas dessus. Ce qui est plus important, c'est au mois de février 1998, quand l'Union européenne révise sa législation sur les OGM, en adoptant une directive qui est celle dont on parle encore aujourd'hui, puisque c'est celle en vigueur, qui est la directive 2001-18, qui remplace les deux directives de 1990, dont on parlait tout à l'heure, et qui affiche un but qui réjouit tout le monde, qui est de rendre la procédure d'autorisation des OGM plus efficace et plus transparente, c'est écrit dans le texte, et qui rentrera en vigueur en octobre 2002. Donc c'est évidemment sur cette directive qu'on reviendra, puisque c'est vraiment le cadre européen. Et puis, deuxième volet du renouveau de la législation européenne, c'est la réglementation sur l'étiquetage et la traçabilité, qui là n'est pas dans une directive. Alors vous savez sans doute que bon, c'est les deux principaux outils du droit européen, vous avez la directive et le règlement. La directive et un texte bon, qui donne, un peu comme son nom l'indique, des lignes directrices et qui ensuite doit être transcrit en droit national. C'est-à-dire que chaque État doit prendre la directive, la transcrire et donc faire une loi nationale qui, évidemment, est conforme à l'esprit de la directive. Par contre, un règlement s'applique de facto aux États. Donc, en mettant les règles sur l'étiquetage et la traçabilité des OGM dans un règlement, l'Union européenne dit ça, c'est vraiment du ressort de l'Union, et le fait de fixer un seuil de présence accidentelle d'OGM, donc un taux de contamination accepté des OGM dans la législation, on le fait au niveau européen au niveau d'un règlement. Et puis les règles de traçabilité, ce sera aussi au niveau communautaire et ça s'imposera aux États. Et donc ce règlement, en fait il y en a deux, hein, mais ce n'est pas très important. Donc il y en a un pour les produits alimentaires et puis l'autre qui doit être pour les produits en milieu confiné. Donc on a une règle qui est de dire on aura un étiquetage des produits qui contiennent des OGM à partir d'un seuil de présence d'OGM de 0,9%. Donc l'Union européenne dit on accepte une pollution entre guillemets par les OGM des produits conventionnels à hauteur de 0,9%, pollution pour laquelle on ne juge pas nécessaire de prévenir le consommateur. Et vous avez certainement déjà discuté de ces histoires de seuil et vous en reparlerez certainement dans les ateliers. C'est un élément fondamental puisque cette décision de 0,9% ou de n'importe quel pourcentage, elle a évidemment des impacts économiques. Alors, si on dit on accepte une contamination de 5% sans étiquetage pour la filière agricole agroalimentaire, ça veut dire que en dessous de 5% de présence d'OGM, il n'y a pas besoin de mettre en place un étiquetage, une traçabilité, une séparation des filières. Et donc, ça se fait à peu près à un coût constant. Si on met ce seuil à 0,1%, ça veut dire évidemment que la filière agroalimentaire va devoir faire extrêmement attention à ce qu'il n'y ait pas de présence d'OGM dans les produits, parce que sinon, ils seront obligés de l'indiquer. Donc ce seuil a vraiment un contenu politique et économique. Et puis, en 2004, le moratoire européen est levé de fait, puisque maintenant, on a réformé la législation européenne, et il est levé en permettant l'autorisation d'une variété OGM, qui est un maïs en boîte, un maïs pour la consommation humaine, qui est autorisé en mai 2004, qui n'a pas été commercialisé, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débouché, puisque les consommateurs n'en veulent pas, mais qui est autorisé. Ceci dit, il faut mettre un bémol, c'est-à-dire que l'Union européenne a levé son moratoire en autorisant de nouvelles variétés à l'importation, comme ce maïs-là, mais par contre n'a pas donné de nouvelles autorisations pour des mises en culture. Donc en fait, on a toujours une espèce de moratoire de fait sur les nouvelles autorisations de mise en culture d'OGM. Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que, rappelez-vous des trois arguments qui justifiaient la mise en place du moratoire. On avait la question de la traçabilité, on avait la question de la coexistence et on avait la question du régime de responsabilité. Et l'Union avait dit il faut qu'on règle ces trois problèmes-là avant de lever le moratoire européen. On a réglé la question de la traçabilité avec le règlement sur la traçabilité et l'étiquetage de 2003. Bon, alors après, dans des conditions dont on peut discuter, mais on l'a réglé. Par contre, la question de la coexistence et la question de la responsabilité, on s'en est débarrassé d'une façon qui est quand même assez formidable en transférant cette responsabilité aux États membres. En disant, écoutez, c'est les États membres qui vont avoir en charge la définition de mesures de coexistence et du régime de responsabilité. Et en fait, l'Union européenne, harcelée aussi par les États-Unis via l'OMC, je sais que vous en avez parlé hier, l'Union européenne qui avait donné trois arguments pour mettre en place son moratoire, a résolu un problème, et à laisser tomber les deux autres et à lever son moratoire. Je pense que c'est quand même important de l'avoir en tête. Et donc, à partir de là, même si c'est relativement symbolique, c'est vrai qu'il y a une barrière qui tombe et que les cultures OGM dans les champs commencent à se répandre. Alors, l'Espagne était déjà bien placée, entre guillemets, puisqu'il y avait déjà des surfaces relativement importantes. Mais en 2005, les OGM arrivent en France, avec un peu moins de 500 hectares. En 2006, on passe à 5500 hectares, chiffre officiel. En 2006, les semences n'étaient pas commercialisées en France. Elles provenaient d'Espagne. Donc l'Espagne, par contre, qui les commercialisait, les agriculteurs du sud-ouest allaient chercher les semences en Espagne. Et puis, en 2006, il y a eu un débat autour d'une loi française sur les OGM, donc qui aurait été la transcription de la directive 2018, qui n'avait toujours pas été transcrite en France. Et le projet de loi a capoté pour des raisons sur lesquelles je ne m'attarde pas. Et en mars 2007, le gouvernement décide de légiférer sur les OGM par décret, ce qui derrière renvoie à des questions démocratiques dont on pourra aussi parler, hein. Donc sans passer par le Parlement, sans débat public. Et ces décrets donnent la possibilité aux agriculteurs de semer des OGM dans des conditions relativement favorables pour eux, enfin, en tout cas pour les agriculteurs qui veulent faire de l'OGM. Et on a la création d'un registre national qui permet de recenser ces cultures. Et quand le registre national paraît, on a le chiffre d'environ 20 000 hectares qui sera réactualisé plusieurs fois et on finit à 21 686 hectares. Donc, qui se trouve principalement dans le Grand Sud-Ouest et en fait qui vont aller en Espagne pour beaucoup, qui vont retourner en Espagne, mais qui vont aussi servir à nourrir le bétail dans certaines régions, donc des agriculteurs qui vont semer de l'OGM, qui vont le récolter et qui vont le donner à consommer à leurs porcs et à leurs volailles. Donc vous avez la carte ici, donc une dissémination qui est quand même relativement importante. Alors, cette directive de 2018, maintenant, pour rentrer vraiment dans le cœur des autorisations, les objectifs de la directive, donc c'est améliorer l'efficacité et la transparence de la procédure, ça, on l'a dit, avec une limite dans le temps, c'est quand même sur 10 ans, et l'instauration d'un contrôle post-mise sur le marché pour les OGM. Et puis une méthode, ça c'est important, d'évaluation des risques qui soit commune au niveau des États membres. On a aussi l'obligation d'avoir des registres pour recenser les surfaces OGM. Et comme je le disais tout à l'heure, par contre, coexistence et responsabilité, l'Union va renvoyer aux États membres. Pour la petite histoire, mais qui est quand même intéressante, sur la responsabilité, l'Union avait commencé à travailler sur la question. On avait eu un livre blanc qui avait été rédigé. Et puis l'Union européenne, qui à peu près tout le monde le sait et pas grand monde s'en cache, est un haut lieu de lobbying. Et l'Union européenne s'est retrouvée un peu en tenaille entre le lobby des producteurs d'OGM qui voulaient un régime de responsabilité qui permette de commercialiser des OGM, et puis le lobby des assureurs, qui ne voulait pas entendre parler d'un régime de responsabilité, les obligeant, entre guillemets, à assurer les cultures OGM. Donc les assureurs eux-mêmes disaient, on ne veut pas assurer les OGM, et ils le disent toujours, ils n'ont pas bougé, on ne veut pas assurer les OGM parce qu'il y a des risques qu'on n'est pas en mesure de quantifier. Et donc l'Union européenne, qui a été pris en tenaille entre ces deux lobbies, a pris la décision courageuse de transférer la charge de la mise en place d'un régime de responsabilité aux États membres. Bon. Ceci dit, la directive, vous avez plusieurs parties. Des dispositions générales, ça a assez peu d'importance. Une partie sur la dissémination volontaire sans mise sur le marché, c'est-à-dire en clair les essais en plein champ d'OGM. Et puis une partie pour la commercialisation. Et enfin, quatrième et dernière partie, des dispositions finales qui vont traiter d'un tas de choses comme l'étiquetage, comme la prévention des contaminations et puis la consultation des comités d'expertise. Alors, quand on lit dans le texte, la directive est un texte qui paraît tout à fait intéressant puisqu'il est dit, par exemple, en matière d'évaluation, que les États membres veillent conformément au principe de précaution, donc on se réfère au principe de précaution dans la directive, à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour éviter les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter de la dissémination des OGM. Donc quand on lit ça et qu'on est à Greenpeace, aux Amis de la Terre ou à la Confédération Paysanne, on se dit c'est très bien, on a une vraie évaluation et puis on va voir toutes les mesures qui seront prises. On verra que c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, on peut lire aussi que les États doivent veiller à ce qu'on ait toutes les inspections et tous les contrôles mis en place afin de respecter les termes de la directive. Et on renvoie aux annexes pour tout ce qui concerne la procédure d'évaluation. Alors maintenant, pour autoriser un OGM, c'est, comment dire, c'est pas une usine à gaz, mais ça y ressemble quand même assez fortement, puisque la directive dit que quelqu'un qui veut commercialiser un OGM doit monter un dossier et doit le déposer, et le déposer dans un État membre. C'est-à-dire qu'on ne dépose pas le dossier au niveau de l'Union européenne, on le dépose dans un État membre, et que cet État membre va commencer par examiner le dossier, et émettre un avis qui va transmettre à l'Union européenne. Auparavant, on transmet une synthèse de la demande de mise sur le marché. Et donc, le rapport d'évaluation arrive sur la table de la Commission européenne dans un délai de 90 jours. Et puis, cette Commission européenne transmet les documents dont elle dispose dans un délai de 30 jours aux autres États membres. Et ces autres États membres peuvent faire des remarques sur le dossier, dont ils disposent, c'est-à-dire sur la synthèse de la demande d'autorisation. Vous voyez déjà qu'il y a un peu une perte en ligne. Et on peut remettre des observations motivées. Et ensuite, l'Union européenne consulte un organisme qui est un peu l'équivalent de la CGB au niveau européen, qui s'appelle l'EFSA, et qui donne des avis. Et enfin, si l'EFSA a donné un avis positif, si la Commission ne voit pas de problème à l'autorisation de l'OGM, le dossier passe en Conseil des ministres de l'Environnement, qui délibère, et qui peut autoriser ou refuser l'OGM sur la base d'une majorité qualifiée. Donc la majorité qualifiée, c'est plus que la majorité simple, hein, c'est pas simplement 50,01%, c'est une majorité supérieure. Et si on n'a pas de décision au niveau du Conseil des ministres, à ce moment-là, le dossier est renvoyé à la Commission européenne qui décide en dernière instance. Donc vous voyez, c'est une mécanique très compliquée. Et qu'est-ce qui se passe dans les faits? Puisque le premier niveau, ça se passe au niveau d'un État. Les pétitionnaires, les gens qui veulent commercialiser un OGM et qui veulent le faire autoriser, vont déposer le dossier dans l'État de leur choix. Et en général, ils vont prendre l'État le plus favorable aux OGM. Évidemment, ils ne vont pas aller s'embêter avec l'Autriche, par exemple, qui est extrêmement inquiète de la dissémination des OGM. Ils vont plutôt aller déposer leur dossier en Espagne ou dans un autre État favorable pour bénéficier d'un avis positif. Ensuite, le dossier revient à l'Union européenne et passe en Conseil des ministres, et en Conseil des ministres, vous n'avez jamais de majorité qualifiée, ni dans un sens, ni dans un autre. Parce que l'Union européenne est divisée, parce qu'on a aujourd'hui une majorité d'États qui refusent les OGM, mais qui ne forment pas la majorité qualifiée. Il s'en faut de très peu, mais ils sont encore en dessous. Et on n'a pas d'avis, et donc le dossier revient au niveau de la Commission européenne, qui autorise à tous les coups. Donc voilà comment se passe l'autorisation des OGM. Ceci dit, puisqu'on parle de moratoire quand même depuis un petit moment, si on peut prendre un moratoire au niveau d'un État, aujourd'hui, c'est qu'il existe dans la directive une clause de sauvegarde, donc qui est l'article 23, et qui permet à un État, à partir du moment où il a des doutes sur l'innocuité des OGM pour la santé ou pour l'environnement, de suspendre une autorisation sur son territoire. Mais il faut prouver et il faut fonder scientifiquement ces doutes. Et de la même façon, cette décision est soumise au Conseil des ministres de l'environnement avec une décision qui se prend à la majorité qualifiée. Et si on n'obtient pas la majorité qualifiée, ça part en Cour de justice des communautés européennes qui tranche en dernier ressort. Ce qui est extrêmement important, c'est que la directive 2018 comporte plus de 50 pages d'annexes sur l'évaluation des OGM. Je vous invite vraiment à aller voir, bon, même si vous ne lisez pas tout, parce que ça a assez peu d'intérêt, mais vous avez des procédures d'évaluation qui sont détaillées à tous les niveaux, en amont de l'autorisation, lors de l'examen par l'État membre du dossier du pétitionnaire. Après dissémination, vous en avez des pages et des pages, et on a quelque chose d'extrêmement précis et rigoureux. Un mot rapide sur le règlement 1829-2003, donc, qui est le fameux règlement qui traitait de l'étiquetage et de la traçabilité des OGM. Un mot pour dire que l'Union européenne a profité de ce règlement pour mettre en place un système d'autorisation simplifiée des OGM via ce règlement. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que quand on compare les différences, on voit que bon, déjà le rôle de l'État 5 minutes. J'ai un œil sur ma montre. Le rôle de l'État disparaît quasiment. Mais surtout que la décision n'est plus soumise au Conseil des ministres de l'environnement, mais qu'elle est soumise au Conseil des ministres de l'agriculture. Et qu'il est de notoriété publique à l'Union européenne que les ministres de l'agriculture sont globalement très favorables aux OGM parce qu'ils ont les lobbies agricoles derrière, que les ministres de l'environnement sont beaucoup moins favorables aux OGM, voire très défavorables, bon, parce qu'ils ont les citoyens et les associations derrière. Donc on profite de ça pour changer la réglementation et pour permettre des conditions d'autorisation plus favorables. Alors bon, sur la directive semences, je passe parce que je n'ai pas le temps. Il faut simplement savoir que la directive 2018 permet d'autoriser une variété OGM, ce qu'on appelle un événement de transformation, mais qu'ensuite chaque semence OGM doit passer par cette directive semences pour être autorisée. Et que là encore, un État peut faire jouer une clause de sauvegarde dans cette directive qui permet d'interdire l'OGM en question. Et donc je vais terminer par évidemment la question des moratoires nationaux, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les États s'opposent à ces autorisations d'OGM. Et bon, on va faire un très rapide bilan, mais sans rentrer dans le détail des différents moratoires. Voilà aujourd'hui la situation en Europe. Des pays qui ont pris un moratoire. Alors bon, j'ai rajouté il y a quelques jours la France, puisque à l'issue du Grenelle, on a ce qu'on peut appeler un moratoire sur le maïs OGM qui est cultivé en France. Mais vous voyez que ces moratoires commencent quand même à représenter du monde. Et quels sont les arguments? On a un argumentaire scientifique. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui est un argumentaire extrêmement solide et qui consiste à dire il y a des effets possibles des OGM sur des organismes non ciblés, c'est-à-dire que le maïs qui est résistant à la pyrale, donc qui a un insecticide qui va permettre de tuer la pyrale, peut aussi tuer d'autres populations d'insectes, peut éventuellement avoir des impacts sur les abeilles. Qu'on peut avoir des ravageurs secondaires, donc d'autres ravageurs que la pyrale qui apparaissent et qui prolifèrent, qu'on n'a aucun plan de surveillance de ces variétés OGM, c'est-à-dire que les multinationales disent dans, dans les dossiers d'autorisation. Oui, on va surveiller après dissémination, mais on n'a aucune méthodologie, alors que la directive européenne l'impose. On n'a aucune méthodologie qui est élaborée, aucune étude concernant les spécificités régionales, c'est-à-dire que vous implantiez des OGM dans le Nord-Pas-de-Calais ou que vous les implantiez en Poitou-Charentes ou dans les Landes. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune prise en considération du milieu dans les études. La méthodologie des essais en champ est complètement inadéquate et les exploitations statistiques sont totalement bâclées. Les effets secondaires liés à la modification génétique, c'est-à-dire les éventuels réarrangements du génome du fait qu'on a inséré un transgène, ne sont absolument pas étudiés. Et on a une méthodologie qui est totalement inopérante sur l'évaluation des risques allergènes. Donc vous voyez qu'on a une batterie d'arguments scientifiques qui montre une chose, c'est que les dossiers d'autorisation sont complètement bâclés. Et ça, c'est un constat qui est partagé par tout le monde. Au niveau juridique, il faut bien voir que ces arguments qui ont été mis en place par les Autrichiens et les Allemands d'abord, et puis ensuite par l'Allemagne et la France, sont valables dans n'importe quel État. C'est-à-dire que dans l'absolu, n'importe quel État européen, en reprenant cet argumentaire, peut très bien mettre en place un moratoire et que, donc, il s'agit uniquement d'une question derrière de volonté politique. Et pourquoi on arrive dans une situation aussi ahurissante alors que les OGM sont disséminés depuis quand même quasiment 10 ans? Ce qu'il faut bien comprendre dans cette procédure d'évaluation et qui est véritablement choquant, y compris d'un point de vue scientifique, c'est que les gens qui veulent commercialiser les OGM vont mener toutes les études qui sont réclamées, et quand je dis toutes les études, c'est avec des pincettes, ils vont mener des études, ils vont présenter les résultats d'études aux États et à l'Union européenne, des études qui sont notoirement incomplètes et où les firmes utilisent le secret industriel pour garder une majorité des données confidentielles. Et on a simplement au niveau européen un organisme qui est l'EFSA et en France un organisme qui est la CGB, qui regardent les études des industriels et qui disent ce qui a marqué sur le papier nous fait dire que, en l'état actuel des connaissances et compte tenu des éléments qu'on nous fournit, il n'y a aucun risque qui apparaît, mais sur le papier. C'est-à-dire en fonction des données qui ont été fournies, des études qui ont été totalement menées par les multinationales. Et jamais la CGB, jamais l'EFSA n'a réclamé la moindre contre-expertise pour simplement aller voir si Monsanto, par exemple, qui demande une autorisation, qui a mené ses études, a réellement bien fait son travail. Je passe extrêmement vite, simplement pour dire que l'évaluation amont est extrêmement mauvaise, mais l'évaluation post-mise sur le marché est pas mal non plus. En 2006, quand vous aviez 5500 hectares d'OGM, vous vous souvenez qu'il y a un comité qui s'appelle le comité de biovigilance qui était chargé de faire le suivi après dissémination. Ce comité ne s'est pas réuni une seule fois. C'est-à-dire qu'on les a contactés, on les a appelés, on ne trouvait pas de compte-rendu de réunion, on les a appelés, on leur a demandé. Il n'y a pas eu une réunion de ce comité de biovigilance en 2006. Vous aviez 5500 hectares d'OGM cultivés en France. Et sur les services de protection végétaux, même topo, les gens dans les services de protection qui sont certainement de bonne volonté n'ont absolument pas les moyens de faire un travail de suivi correct. Bon, évidemment, un autre argumentaire qu'il ne faut pas négliger, qui est la question démocratique, et je terminerai là-dessus. Face au risque de contamination de la filière avec l'introduction des OGM et derrière les risques pour la santé et l'environnement qui n'ont jamais été levés, puisque les OGM n'ont jamais été réellement évalués, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, eh bien, on a un refus du public et d'une bonne partie des agriculteurs d'utiliser les OGM, qui paraît quand même relativement légitime compte tenu de ces éléments. Et il se trouve que ce refus du public jusqu'à maintenant n'a pas été pris en compte et que les autorisations ont quand même été données. Et c'est des autorisations qui sont pour l'instant fondamentalement contestables à tous les niveaux. Et je m'arrêterai là, merci.
Donc, merci pour cette conférence qui nous a permis de synthétiser tout ce qu'on a aussi entendu hier. Vous avez eu beaucoup d'interventions, donc c'était très intéressant. Vous remettiez aussi tout ça en perspective. Nous vous remercions. Donc, on a 5 minutes pour les questions parce qu'on est en retard pour les ateliers. Donc, on a encore des problèmes de timing, comme on dit, c'est l'horreur. Donc, voilà, on va parler vite comme ça. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Bernier. Donc...
Bonjour Monsieur Bernier, Christophe Krolik, je suis juriste. J'avais une question à vous poser hier. On s'est intéressé à la responsabilité en matière de GM, vous en avez parlé également. Et on a vu qu'il y avait un projet sur la responsabilité mais en matière économique. Et il y a également un projet de loi sur une responsabilité environnementale. Est-ce qu'on peut envisager d'envisager les pollutions en cas de dissémination des OGM comme une responsabilité environnementale également ?
Oui, on peut l'envisager. Enfin, après, pour l'instant, les réponses qu'on a sur la question de la responsabilité, elles sont pas du tout satisfaisantes. Bon, on parle de créer un fonds d'indemnisation. On parle d'obliger éventuellement les agriculteurs à s'assurer sur le risque OGM, sauf que les assureurs veulent pas en entendre parler. Alors, enfin, gardez bien ça en tête quand même. Les assureurs, c'est les professionnels du risque. Et c'est des gens qui sont là quand même pour gagner des sous, bon, ce qui est dans une certaine mesure légitime, mais qui sont quand même assez spécialistes du fait de gagner de l'argent sur le risque. Et dites-vous bien que si jamais il y avait un intérêt financier à assurer les OGM, ils l'auraient assuré depuis longtemps. Donc si eux ne le font pas, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et cette question de la responsabilité, si on voulait bien la traiter... moi, je pense qu'il faudrait une double responsabilité. Une responsabilité de l'agriculteur qui sème des OGM, parce qu'aujourd'hui, il le fait en connaissance de cause et il n'y a pas de raison. Et puis, une responsabilité de la firme qui l'a mise sur le marché. Et on peut très facilement remonter à cette firme, puisque les OGM étant des plantes brevetées, on a un détenteur du brevet. Moi, personnellement, c'est le seul intérêt que je vois au brevet. C'est qu'on peut tracer l'OGM grâce au brevet. Bon, ça ne le justifie pas. Mais on doit avoir une responsabilité du détenteur du brevet. Bon, après, la responsabilité doit couvrir évidemment tous les dommages potentiels, c'est-à-dire l'éventuel dommage environnemental, sanitaire, et puis le préjudice financier d'une récolte contaminée, et puis de la perte d'un label éventuellement qui peut en découler.
Bonjour, moi je fais partie des 86% des consommateurs évoqués tout à l'heure et j'aimerais savoir au niveau juridique qu'est-ce que l'on peut faire concrètement actuellement avec ce qui est mis en place pour faire valoir la démocratie et le vote des consommateurs.
Bah, on peut faire plein de choses et notamment interpeller les politiques, et c'est vrai que c'est ce que les organisations font depuis longtemps. Sur la question précisément de l'évaluation et de l'autorisation, moi j'ai une proposition qui est vraiment très simple, basique, et qui à mon avis pourrait être prise et revendiquée par les citoyens. Il faut refondre cette procédure d'évaluation complètement. Il faut que cette procédure d'évaluation soit indépendante et incontestable. On est tous d'accord là-dessus. Moi, je propose qu'on confie cette évaluation des OGM à la recherche publique française. donc des scientifiques indépendants et qui prouvent leur indépendance. C'est-à-dire qu'on est, on est la certitude qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre les personnes qui vont évaluer ces OGM et puis l'industrie. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on demande aux multinationales, plutôt que de mener les études elles-mêmes, ce qui leur demande du temps et de l'argent, de déposer une somme forfaitaire quand elles demandent une autorisation, qui va correspondre à ce travail d'évaluation sur les bases de la directive européenne. Il n'y a rien à réinventer, il y a tout dans la directive. Le problème, c'est qu'on ne l'applique pas. Donc qu'on mène toutes ces études, mais que ce soit la recherche publique française qui la mène, mais que ce ne soit pas évidemment financé par le contribuable, que ce soit bien financé par les pétitionnaires, c'est-à-dire les gens qui veulent commercialiser ces OGM. Donc on définit un protocole, ça correspond à tant de jours de travail d'un chercheur moyen de la recherche publique, on calcule au coût horaire un montant et on demande à Monsanto, à l'Imagrin et à tous les gens qui veulent commercialiser des OGM de déposer ce montant et que ce soit la recherche publique qui mène les recherches. Et là, on aura des résultats. Et je pense que cette question de l'évaluation, elle est centrale, elle est au cœur du débat parce que le système européen est critiqué de partout. Donc on va avoir une refonte du système européen et des systèmes nationaux d'évaluation. C'est le moment de porter cette revendication. Et je vais vous dire, à partir du moment où on met en place un système comme ça, je suis persuadé que vous n'avez plus d'OGM en Europe. C'est-à-dire que le coût de l'évaluation, si jamais on le fait assumer sérieusement, une évaluation sérieuse, aux firmes, si on demande aux firmes de payer pour autoriser ces OGM sur ces bases-là, les OGM ne seront plus rentables économiquement. Et on se débarrasse des OGM commerciaux. Et je pense qu'on parlera plus à ce moment-là, évidemment, que des OGM de recherche fondamentale, des OGM de laboratoire, des OGM qui permettent de synthétiser des molécules pharmaceutiques, mais que les OGM en plein champ, ce sera terminé, parce qu'on est clairement dans une logique de rentabilité.
Oui, j'essaie à grand peine de me faire une opinion justement sur les OGM, au moins sur certains. Justement, ceux qui sont contre la pyrale et qui produisent eux-mêmes leur insecticide, on entend dire qu'ils en produisent moins que si on vaporise des insecticides. Donc après ça, moi je ne sais plus quoi penser. Quelle est votre opinion là-dessus ?
Bon, ça c'est un peu un autre sujet, mais rapidement, on a entendu un peu tout et n'importe quoi là-dessus. Moi, j'ai été voir les données fournies par Monsanto sur le maïs insecticide. J'ai fait le calcul avec une amie scientifique. Vous avez sur un champ de maïs OGM BT. Vous avez en gros, je crois que c'est 2,5 fois plus d'insecticides qui est produit par la plante que d'insecticides qui est épandu sur des OGM conventionnels. Donc on a plus d'insecticides. Hein, cet argument de la réduction est faux. Par contre, ce n'est pas les mêmes insecticides. Alors les gens qui défendent les OGM vous disent, en fait, le gène qu'on a mis dans la plante, c'est un gène qui provient d'une bactérie insecticide qui est utilisé en agriculture biologique. Alors c'est vrai, sauf que cette bactérie, on a pris simplement une partie du génome, on a tronqué le gène qui permet de produire l'insecticide naturellement, et puis on a fait des constructions qui font que ce gène qui a été inséré dans la plante n'a plus rien à voir avec le gène de la bactérie. Et là, où on revient sur les questions d'autorisation et d'évaluation, et qui est extrêmement grave, parce qu'on peut discuter dans le vide pendant des années de l'impact de ces OGM sur la santé, cette plante qui produit l'insecticide n'a pas été évaluée. C'est-à-dire que l'impact de l'insecticide dans la plante sur le milieu, sur l'environnement, sur les insectes, sur la santé des vaches qui vont manger cet OGM ou des hommes qui vont le manger, n'a jamais été évalué. On est parti du principe que comme l'insecticide, comme la bactérie était utilisée déjà en agriculture et qu'on partait de cette bactérie-là pour faire une construction génétique, la plante transgénique ne méritait pas d'évaluation. Donc c'est là qu'on a une véritable aberration scientifique, démocratique, tout ce que vous voulez. C'est que les gens se posent des questions et aujourd'hui, les décisions politiques ont fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir les réponses. Et en plus, les conditions de cette pseudo-évaluation soient taillées sur mesure pour les gens qui veulent commercialiser des OGM, c'est-à-dire les multinationales. En clair, on leur a fait cadeau de l'évaluation.
Bon, merci beaucoup d'avoir tenu les temps qui étaient impartis. On aurait pu parler plus longtemps avec vous. Merci beaucoup, public, pour les questions. Donc, je vous invite à aller maintenant aux ateliers. Je vais passer le micro à Laurent aux ateliers de l'école de l'ADN. Et je vous invite à revenir dans une heure pour écouter la conférence de Raphaël Larrère. À tout à l'heure. Merci. J'ai un appel à faire aussi. Quelqu'un a perdu. Est-ce qu'il y a une dame qui a perdu un chèque?
Je laisse mon diaporama.
Voilà. Je ne sais pas si.
Madame Boudot.
Il est là.
C'est vous?
Enfin, vous pouvez le diffuser. Il n'y a pas de
diffusion.
Non, mais je veux dire aux participants.
D'accord.